Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous voici aujourd'hui avec le collectif O88 qui nous présente une nouvelle émission, L'eau pour la vie. Nous recevons aujourd'hui Bernard Schmitt qui va nous expliquer exactement ce qu'il en est.
Je commencerai déjà par présenter le collectif.
Oui.
Il est né en 2016, en fait, fait quasiment 10 ans. Et au départ, il est constitué par 4 associations. Le collectif n'étant en soi pas une association. C'est Vosges Nature Environnement, c'est Oiseaux Nature, c'est l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, et c'est UFC Que Choisir. Voilà. Et pourquoi ? Parce que ces 4 associations se sont retrouvées dans une commission du conseil départemental qui s'appelle la commission locale de l'eau, et ils n'ont pas supporté ce qu'on leur proposait. Et donc on a décidé de se former dans un collectif associatif.
Parce que l'union fait la force.
Parce que l'union fait la force, exactement, c'est plus qu'un slogan, c'est une réalité.
C'est une réalité. Voilà, alors, la présentation donc, du collectif O88, on a bien compris que c'est un rassemblement de plusieurs associations. Mais maintenant, vous travaillez sur un sujet quand même particulier, collectif O88, c'est-à-dire Nestlé. Qu'est-ce qu'on en sait exactement de Nestlé depuis 10 ans ?
Alors, c'est un vrai sujet, c'est le sujet de l'embouteillage de l'eau, en fait. Et on s'est aperçu avec les associations dont je viens de parler qu'il y avait une nappe d'eau en voie d'épuisement à Vittel.
On ne peut pas y croire à ça.
On ne peut pas y croire.
C'est phénoménal.
Exactement. Et donc on m'a demandé si je voulais bien siéger dans cette commission. Et en travaillant ce dossier avec plusieurs personnes, on s'est aperçu que c'était une vraie réalité et que l'essentiel de cette nappe d'eau qui disparaissait, c'était à cause des industriels et notamment de l'industriel de Nestlé.
Oui, parce que là, il y a quelque chose qui m'a toujours chipoté et chicané, moi, c'est l'eau, ils la prennent, mais ils ne donnent pas le nombre de flottes qui pompent, en fait. Il n'y a pas de contrôle à ce sujet.
En théorie, si. Sauf que l'État n'a pas les moyens de contrôler. Donc l'État se renseigne à partir des données fournies par Nestlé. Donc Nestlé est son propre contrôleur. À partir de là, ça ne fonctionne plus.
Donc en quelque sorte, c'est juste les bouteilles qui sortent, on sait par les bouteilles qui sortent.
On sait approximativement par les bouteilles qui sortent, mais on ne sait pas trop. C'est les taxes qui sont payées à l'agence de l'eau, c'est encore plus compliqué. Mais donc globalement, Nestlé a une très très grande autonomie sur le sujet. Quoi.
Mais quel chiffre à ce niveau-là sur l'eau en bouteille ?
Sur l'eau en bouteille, on peut donner quelques chiffres intéressants. En 1975, ce n'est pas une date que je dis au hasard, mais peu importe. En 1975, il y avait 400 millions de bouteilles qui sortaient des usines de Vittel contre Excel.
Non, mais attends, là, 400 millions de bouteilles, d'accord, mais par jour, par mois, par année, par...
Par an,
ah, quand même. Non, j'ai eu peur.
Et il y avait 4500 salariés.
D'accord.
Quand je suis arrivé à Vittel à ma retraite, il y avait 1200 salariés. Et on sortait 1,5 milliard de bouteilles.
Wow.
Donc on a changé de monde, de galaxie. Aujourd'hui, on est à moins de 500 salariés.
D'accord. Ah non, mais alors là, il y a... Attends, on reprend depuis le début. Il y avait combien, il y a 10 ans en arrière, de salariés ?
Il y a 40 ans, il y avait 4500 salariés.
D'accord. Et il y a 10 ans, il y avait combien de salariés ?
Entre 1100 et 1200.
Et donc, en 10 ans, ça a été essoré.
Et la cible, c'est 250 salariés, selon un dirigeant de Nestlé que j'ai rencontré dans cette fameuse commission. Donc le pire est à venir. On pille la ressource en eau et on effondre l'emploi. Tout ça pour les bénéfices d'une multinationale qui s'appelle Nestlé.
D'accord. Hein, dans tout ça, parce que l'eau, c'est une chose, c'est important. Est-ce qu'il y a des changements par rapport au combat que vous avez mené ?
Alors, ça fait 10 ans qu'on se bat. Avec beaucoup d'impact en réalité, mais sans changement sur le pillage de la ressource en eau. Quoi. Donc en 10 ans, on a réussi à faire condamner la présidente de la commission locale de l'eau, qui était conseillère départementale, adjointe au maire de Vittel, qui a été condamnée pour corruption, c'est le mot qu'il faut utiliser, Ça s'appelle prise illégale d'intérêt dans le droit, mais en fait c'est corruption, ainsi qu'une association qui s'appelle la Vigie de l'eau. Qui travaillait en lien très étroit avec Nestlé, qui défendait les intérêts de Nestlé. Ensuite, on a réussi à empêcher la création d'un pipeline qui devait ramener l'eau aux habitants de Vital et de Contrexéville, ça voulait dire qu'on favorisait les industriels et qu'on empêchait les gens de boire l'eau qu'ils avaient sous leurs pieds. C'est absolument fou. C'est ce qui se passe à Volvic. Hein. À Volvic, par exemple, les gens de Danone, les gens boivent l'eau de l'Allier. Et Volvic embouteille l'eau qui est dans la montagne. Quoi. On a aussi découvert des forages illégaux pour lesquels il y a eu un truc un peu barbare qui s'appelle une convention judiciaire d'intérêt public, mais que moi j'appelle une convention judicieuse d'intérêt privé. Hein, d'accord. Nestlé a payé quelques milliers d'euros et il n'y a pas eu de condamnation. Il y a eu l'affaire des traitements illicites qui est survenue il y a un peu plus d'un an. Et puis, on avait découvert aussi en 2021 des décharges de plastique pour lesquelles il va y avoir un procès fin novembre à Nancy. Des décharges de plastique monstrueuses, puisque sur les quatre principales décharges de plastique autour de Vittel, Contrexéville, c'est 470 000 mètres cubes de plastique. Mais ça veut dire que c'est une pollution définitive des sols et pour des centaines d'années, quoi. Les scientifiques disent que la dégradation du plastique en micro, nano, picoplastique va mettre 400-500 ans pour se faire, et pendant ce temps, on va les manger. C'est compliqué parce qu'en fait, c'était des fosses. À l'époque, ils faisaient des fosses dans lesquelles ils jetaient les échecs du plastique et ils brûlaient. D'accord, donc tout ça, ça dégage des saloperies, hein, des dioxines, du chlore, toxiques pour les individus, etc. Hein. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est résiduel après brûlage. Dans l'usine de Contrexéville, près de l'hippodrome à Vittel, à Crainvilliers, enfin voilà, il y a quatre décharges principales qui existent et pour lesquelles il y aura un procès qui va durer 5 jours.
Au village, notre bon maître avait inventé une eau miraculeuse qui fait éliminer les toxines et nourrit mon corps de minéraux essentiels. D'abord, on la garda pour les riches amis. Notre bon maître, avant de la vendre aux pauvres aussi, il ne manquait plus pour faire sérieux qu'une manne providentielle. Rendons grâce à l'esprit Water, gloire à notre bienfaiteur, qui donne à toutes choses un prix, et un bel emballage jaune que l'on consomme avec ardeur. Voilà le secret du bonheur, et c'est révèle de la vie le pur visage. À l'usine, tout d'abord, fallut moderniser à grands coups de tomates et le CDD, qui est juste une peur de licenciement face aux brèves industrielles. Heureusement, l'OPA ne se vit pas sans allier. Faut dire que nos élus étaient dans leurs petits souliers. Je file à ta femme la clé du sage contre une clé du ciel. Experts qui veillent sur notre santé, la plus vert que vert. Sur les terres qu'on rachète, on met des métayers qui seront les chiens de garde d'un bio labellisé et chanteront les vertus de nouvelles gammes phytosanitaires. Sécheresse fera grimper le prix de la bouteille. Car bientôt les traités de tonton d'Amérique permettront d'attaquer les états ethniques qui persistent à traiter bien commun entre filons de zèle. Rendons grâce à Nestlé Water, oui, gloire à notre bienfaiteur.
quelque chose dans cette eau, une saveur magique. Et demain, grâce à Bure, peut-être même à Tommy, y'a ta mère qui croit c'est l'eau, alors que la bouteille brille en noir. Pour conclure, mes amis, cette histoire cynique, l'eau c'est pas compliqué, c'est comme tout ça se fabrique. Si ça te fait pleurer, dire l'eau, mais c'est gratte la tête son mouchoir.
Vu quand même, alors je ne sais pas si c'était le collectif au 88 ou si c'était Vosges Nature Environnement ou si c'était une autre des associations que vous représentez qui était au Sénat. On vous a vu au Sénat.
Oui, alors on a été entendu au Sénat fin janvier 2025 de cette année et c'était en tant que Vosges Nature Environnement et Lorraine Nature Environnement en réalité.
D'accord.
Mais bien sûr, on est porteur du collectif au nom de toutes les associations.
Et quelle était la cause précisément de ce passage ?
La commission d'enquête parlementaire du Sénat était liée au traitement illicite qui avait été dénoncé par la cellule d'investigation du Monde et de Radio France, en fait, qui ont été révélés. Donc, laisse-les traiter l'eau minérale qui, par définition, ne peut pas être
non, traité. Non, c'est le fameux scandale qui est en train de poindre actuellement.
Exactement.
C'est un scandale un petit peu énorme, on va dire.
Énorme, parce que on estime que ça fait 18 ans que Nestlé traitait l'eau.
18 ans ?
Et ça, oui, alors sans doute même un peu plus. Certains disent même que ça avait commencé avant que Nestlé soit propriétaire. Enfin, tout ça, je ne le sais pas. Mais ce qui est dit par les médias et la justice pour l'instant, 18 ans et ça représente 3 milliards d'euros.
Alors si je me mets dans la peau de l'auditrice et de l'auditeur lambda, ça veut dire que même nos nappes phréatiques sont polluées.
Exactement. Alors ça, c'est très, très, très important. C'est ce qui vient d'être révélé par l'enquête de l'Office français de la biodiversité. Moi, je voudrais souligner cette remarquable administration, et notamment dans les Vosges, critiquée par certains agriculteurs. Mais ils ont fait un boulot fantastique. Ils ont contrôlé l'eau avec un laboratoire à l'émergence, c'est-à-dire quand elle sort de terre. Et là, ils ont constaté qu'il y avait une pollution plastique absolument dingue dans l'eau qui s'appelle Épar et dans l'eau qui s'appelle Contrex. D'accord ? Et c'est des taux 100 fois, 1000 fois supérieurs aux microplastiques qui sont dans la Seine, à Paris. D'accord ? Et ça, c'est notre eau. Ils se sont eux-mêmes autopollués par les décharges plastiques qui sont proches de leur forage. C'est absolument de la folie. Et ces microplastiques, ça commence à émerger. Hein. Aux États-Unis, ça fait 20 ans qu'on travaille sur les microplastiques. Chez nous, on est en train de les découvrir. Aux États-Unis, il y a une épidémie d'accouchement prématuré liée aux emboles de microplastiques dans les placentas des femmes. En Italie, ils ont travaillé sur les plaques d'athérome cérébral qui sont colonisées par les microplastiques. Donc il y a de plus en plus de travaux scientifiques qui existent. Mais il n'existe pas de normes en France, en Europe, sur la teneur en microplastique de l'eau. Et c'est ce qui va nous intoxiquer, provoquer les cancers pédiatriques liés aux pesticides, liés aux microplastiques, etc. C'est une épidémie à venir, et c'est à prendre vraiment au sérieux. Je rigole pas avec ça.
Non, justement, mais on va essayer de ne pas non plus sombrer dans le trop triste, mais là j'ai une question qui me vient, c'est et le climat dans tout ça ?
Alors, c'est une très bonne question.
Merci.
Alors je vais dire un truc, mais que les gens peut-être vont découvrir, c'est que le climat, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr, il y a un changement climatique. Moi, j'appelle ça une dérive climatique.
Oui, un dérèglement, je préfère.
Moi, je préfère dérive parce que je suis très bien informé en statistique. Donc, j'aime bien le terme dérive, peu importe le mot. Le changement climatique, qu'on appelle réchauffement, est en cours depuis longtemps. Mmh. Et il est prédit, entre guillemets, depuis les années 50, mmh. et notamment depuis 1962, par une Américaine qui s'appelle Rachel Carson, et qui a écrit Un printemps silencieux. Pourquoi un printemps silencieux ? C'est pas le climat. C'est l'effondrement de la biodiversité. Le printemps est silencieux parce que les oiseaux ne chantent plus. Mmh. On a vu la disparition de 40% des oiseaux dans ces 30 dernières années. Et l'oiseau, c'est la partie visible. La partie invisible, c'est tout ce qui est dans le sol. C'est le microbiote, c'est les bactéries, c'est les insectes, etc. Donc en réalité, il y a un effondrement du vivant qui n'est pas lié au changement climatique, qui n'est pas directement lié au changement climatique, qui est lié essentiellement, je vais dire le mot, aux pesticides et à l'agriculture.
À la pollution.
Oui, mais c'est une pollution agricole. Parce que les pollutions industrielles, elles existent. Hein. Il vaut mieux pas boire l'eau du Rhône. Hein. Tout le nucléaire est là, toute la chimie est là. Mais l'agriculture, elle est diffuse. Et partout, on y va. On injecte dans le sol des biocides, en réalité, qui tuent la vie. Hein, c'est le sujet des pesticides, c'est le sujet des PFAS, de la loi du plomb. Enfin,
oui, on est en plein dans le sujet.
On est en plein dans le sujet. Hein, donc, c'est la disparition du vivant. Et au bout, dans le vivant, il y a les humains.
Oui, on fait partie de la chaîne. Hein. Voilà, on est pris dedans. Voilà. Alors évidemment, il y aura de l'adaptation, j'entends bien, mais alors à quoi ressemblera l'adaptation, ça reste à définir.
Hein. Exactement. Et je pense que les sujets de l'eau, du climat, de la biodiversité se manifestent déjà. Et pour moi, ce n'est pas 2050, c'est 2030.
Alors, je pense... Là, je parle en tant que jardin privé,
oui, oui, oui.
Parce que je vois les mauvaises bestioles, enfin les bestioles qu'on a maintenant ne sont plus les bonnes bestioles qui s'entraidaient, qui s'entre-ci, qui s'entre-ça. On a de plus en plus des espèces de trucs bizarres, on est envahi par des choses, on ne sait pas d'où elles viennent, c'est un petit peu étrange, effectivement.
Et, tu peux faire une incise là-dessus ?
Oui.
On voit ce qui apparaît, on ne voit pas ce qui disparaît. Alors, on parle du frelon asiatique.
Voilà, c'est ça ce que je pensais.
Mais pourquoi est-ce que c'est une espèce invasive ? Parce qu'elle vient d'Asie. Un peu facile. C'est parce que nos espèces propres sont en train de disparaître. Donc, on est colonisé par des espèces invasives.
Ah oui, parce que moi, je parlais...
Donc, il faut voir l'envers.
De la punaise d'Afrique, blanche et noire.
Oui.
J'ai une invasion cette année, je ne sais pas d'où elle vient.
Mais parce qu'elle a la place.
Oui, c'est ça.
Notre vivant disparaît. Et colonisé, entre guillemets. C'est une autre façon de...
Intéressant, oui, très intéressant. Et alors, dans tout ça, on a l'eau, l'eau pour la vie, donc l'eau, c'est la vie. Et l'eau, il y a des conséquences qui viennent quand même, je dirais, de gaspillage sur les réserves d'eau. Comment on pourrait définir ça ?
Notre empreinte eau à chaque humain, c'est 150 litres par jour. Ça, c'est notre empreinte directe.
En moyenne, parce qu'il y a bien des pays où ils n'ont pas 150 litres.
J'ai dit en France. Hein.
Ah bon, d'accord. En France. Oui, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas 250 litres.
Oui, bien sûr, oui, c'est beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus, hein. Mais notre empreinte indirecte, quand on met les vêtements, quand on met tout ça, c'est 4500 litres par jour par individu. C'est insupportable. Et une des principales causes de déperdition de l'eau, c'est le textile.
Ah, la fabrication. Ah oui, j'entends bien. Donc il faudrait peut-être... clarifier un peu ce point-là, ça veut dire que les choses qui ont été produites et qu'on utilise, y compris et en particulier le textile, oui, nécessitent
un jean nécessite
beaucoup d'eau.
Énormément d'eau.
Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains, ils sont si pleins de turbulences, je crois qu'ils ont peur du silence, ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, oh, je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursoufle, on ne distingue plus le front, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. se dit le lac Saint-Sébastien. Elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides. Où sont leurs truites, leurs brochets? Il faut croire qu'ils les cachaient. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien. L'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices. Et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue. Se dit le lac Saint-Sébastien, ils sont étranges ces humains. Quand ils détournent des rivières, ils sont parfois très en colère. Si elles vont regagner leur lit après avoir tout englouti. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je crois qu'ils ne font pas le lien entre toutes les eaux du monde. Moi je sais qu'elles correspondent. Et quand la plus petite flaque, il y a l'espérance d'un lac. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils se battent comme des chiens. Ils sont chiens quand ça les arrange, et puis se prennent pour des anges. Comme si d'être ce qu'ils sont leur donnait un mauvais frisson. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils s'improvisent magiciens. Ils déracinent et ils bétonnent, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étende le désert. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue. Se dit le lac Saint-Sébastien, je refroidis, l'hiver s'en vient. Bientôt se formera ma glace, dessous j'aurai toute la place. Pour moi le gel est bienvenu, je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains. Ils seront encore là, j'espère, quand mes eaux redeviendront claires. Et que se poseront les huards, pourvu qu'il n'ait pas de retard. Et que près de moi, cette humaine ait traversé l'hiver sans peine. Qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue de l'eau.
Encore une petite incise là-dessus. Initialement, le textile, c'est la révolution industrielle de l'Angleterre au XVIIIe siècle. Parce qu'elle a colonisé l'Inde et le Pakistan à l'époque. Donc elle importe le coton. Et l'industrie textile se développe en Angleterre de façon incroyable, quoi. Et en même temps, les États-Unis se construisent et ils disent, mais on va pas se faire dominer par l'industrie du textile, du coton britannique. Donc les Américains, les États-Uniens plutôt, il faudrait dire, développent les champs de coton, l'esclavage, d'accord. Et quelques années plus tard, après la révolution soviétique, les Russes disent, mais on va pas dépendre du marché d'Angleterre ou des États-Unis. Donc, on lance de l'industrie du coton en URSS. Et on va irriguer, parce qu'il n'y a pas suffisamment. On ne peut pas faire pousser du coton. Et l'assèchement de la mer d'Aral est lié au coton.
Ah, d'accord.
D'accord. C'est des quantités phénoménales d'eau. Hein. Enfin, voilà. Petite digression.
Non, mais c'est une digression importante, parce que quand même, actuellement, on a l'opportunité d'acheter du seconde main, qui d'ailleurs est souvent bien plus beau que du première main. Et donc, on peut quand même ralentir de manière assez facile cette gabegie, en quelque sorte.
Ouais, mais si on se replace dans les Vosges lorraine et alsacienne, on a relocalisé 8000 emplois du textile, ce qui apparaît formidable, mais sauf que le coton, on le fabrique pas en France,
non.
Donc il vient d'Inde et du Pakistan, d'accord, et on le lave dans les hautes vallées des Vosges. Et pour parler des Vosges lorraine, il y a un ruisseau qui s'appelle la Cleurie qui est mort parce qu'il est plein de pesticides. Lié au lavage du coton qui vient d'Inde et du Pakistan. D'accord. Donc tout ça n'est pas très simple.
Ça fait peur.
Oui.
Mais ça fait peur. Il y a des choses quand même qui sont largement suffisantes. Pourquoi en produire encore ?
Ouais.
C'est un peu la question.
Et ça, on a des preuves scientifiques là-dessus. Hein. On ne dit pas ça par hasard. Quoi.
Parce qu'en fait, l'eau, c'est un bien, mais c'est quand même avant tout un commun. Alors, elle appartient à qui, cette eau?
Ah, c'est le vrai sujet. Alors, moi, j'ai horreur du terme bien.
D'accord.
Parce que dès qu'on dit bien, c'est de l'argent.
Ouais.
D'accord. Donc, je raccourcis en disant, il faudrait que l'eau soit un commun.
D'accord.
Alors, aujourd'hui, quand on dit, et dans la législation européenne ou française, on dit un bien commun. Donc, là, ça y est, les dollars et les euros sont en train de sonner. Il appartient à tout le monde et à personne, quoi.
Hein. Ça revient au titre de l'émission, l'eau pour la vie, mais...
pas pour le profit.
Ah, voilà.
C'est exactement le cœur du sujet. Ça peut être une lueur d'espoir pour l'avenir, puisque nos eaux sont polluées, elles sont dégueulasses, qu'elles soient en bouteille ou au robinet. Enfin,
ouais.
L'État est en pleine défaillance sur ce sujet-là.
Mm.
Le rôle de l'État, si, après, on a le droit de penser l'inverse, et serait quand même un peu de nous protéger la population.
Moi, je poserais une question qui est peut-être un petit peu pertinente ou impertinente, hein, je ne saurais pas dire. En sont-ils vraiment conscients? Ou ont-ils une part de conscience là-dedans? Ou font-ils partie des gens qui se disent « De toute façon, nous, avec le fric qu'on a, on s'en sortira toujours ?» Le même slogan.
Alors, je pense que ça, c'est une partie de la vérité. Plus les gens ont de l'argent, plus ils se disent « J'aurai de la climatisation, je pourrai m'abriter dans ma maison, avoir une bagnole climatisée, parce que bientôt l'air qui est aussi pollué que l'eau, on la respire. » Et donc, il y a déjà des pays où on paye pour respirer quelques heures par jour avec un masque. D'accord, c'est un peu apocalyptique, hein, ce que je veux dire, mais c'est une réalité. Donc, je pense que eux pensent que les riches, ils vont pouvoir s'en tirer. La preuve, la loi du plomb, c'est un scandale inimaginable. Mais en même temps, ceux qui nous dirigent sont les esclaves de l'argent.
Oui, et puis ils sont quand même dirigés. On dit ceux qui nous dirigent, mais c'est un petit peu grossier de dire ça. Est-ce qu'ils dirigent vraiment? Ils sont dirigés par...
Oui, alors nous, ils nous dirigent parce que, notamment en France, il y a une constitution qui est incroyable, qui permet à un gouvernement illégitime et à un président illégitime de légiférer, de faire ce qu'ils veulent, sans majorité politique. C'est un déni de démocratie.
Tout à fait.
Hein. Et en même temps, ils sont les jouets des multinationales.
Bien sûr.
Ces multinationales qui sont nées pendant la colonisation.
Bien sûr.
Et qui maintenant colonisent. Les États du départ de la colonie.
Ils ne font que de tenir la ficelle au milieu, mais ce n'est pas eux qui ont le bout de la laisse. Hein.
Voilà. Et sans faire de politique ultra, le cadre européen est un cadre de l'ultralibéralisme et dans lequel les États n'ont pas beaucoup d'influence directe. Quoi.
Non, et en plus, entre nous, ils ont tellement de chiens à fouetter. Hein.
Oui, bien sûr.
On va pas se mentir.
Oui.
À l'heure actuelle, ils sont submergés par les problèmes. D'ailleurs, comme ça qu'on arrivera certainement un jour à une semi-solution quand ça va déborder.
Mais justement, par rapport à l'eau, si on...
Oui.
À qui appartient l'eau?
Oui.
Hein, la première privatisation de l'eau au monde, le Chili de Pinochet.
Ah.
Ensuite, ça va être Margaret Thatcher en Angleterre qui va privatiser l'eau.
Ah.
Ensuite, plus récemment, quinzaine d'années, c'est l'Australie qui a privatisé son eau. On peut acheter l'eau, la revendre, elle est cotée en bourse.
Okay.
Aujourd'hui, la bourse de Chicago a vu entrer l'eau de Californie dans la bourse. Donc là, on peut acheter quand ça descend, on peut vendre quand ça monte, etc. Le marché de l'eau. Aujourd'hui, la Commission européenne fait pression sur la Grèce pour qu'elle privatise son eau. Donc la Commission européenne a fait ses choix. Et on voit bien que dans ce cadre-là, le sujet de l'eau, il est fondamental. Parce qu'on va essayer de privatiser l'eau. La ressource essentielle, j'aime pas le mot ressource non plus, la ressource essentielle à la fin du 19e et du 20e siècle, c'est le pétrole.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Et la ressource essentielle au 21e siècle, c'est l'eau.
Voilà.
On est
du
bien
pétrole,
d'accord.
Il va plus en avoir bientôt.
Non, puis c'est plus la question.
Si on prend toujours l'exemple de Nestlé,
en
étant allé au Canada, on a vu que British Petroleum avait pris des actions chez Nestlé.
Ah oui, c'est ça.
Et Nestlé avait pris des actions chez British Petroleum. Actions croisées.
C'est Danone qui a pris des actions chez Evian, hein, mais il y a longtemps, il y a 25 ans en arrière.
Ils ont commencé.
Oui, qui a acheté il y a 25 ans.
Ils n'ont plus à Ribou à l'époque.
Non, non, mais il y a 25 ans qu'ils ont acheté, je crois.
Oui, voilà,
à peu près. Oui, là,
donc,
ça commençait à sentir mauvais.
C'est la réserve essentielle financière du siècle.
Ah non, puis l'être humain ne fait rien sans l'eau.
Bien sûr.
Ne fait rien, il est mort.
Sans eau.
Ah ben non, il est mort.
Et on meurt, quoi. Ouais. Donc, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut un peu se révolter et qu'il faut faire évoluer les législations sur l'eau pour qu'elles soient protégées. Aujourd'hui, l'eau n'est pas protégée.
Ouais, alors, une dernière petite question. Est-ce qu'il y a des perspectives favorables d'évolution pour l'eau, malgré tout? Est-ce qu'on sent venir poindre des solutions?
On aimerait.
Ah.
On aimerait, mais oui, les perspectives, c'est que jadis, mais je ne veux pas retourner en arrière non plus, l'eau était ce qu'on appelle un commun.
Oui.
Hein, comme la forêt, oui. Comme les rivières dans lesquelles les serfs du Moyen-Âge, qui n'étaient pas propriétaires, pouvaient pêcher, mm-hmm. pouvaient chasser à certaines périodes de l'année, mm-hmm. ramasser du bois, se chauffer, etc. Hein. Et la grande transition en France, c'est 1804, peu importe, c'est Napoléon Bonaparte avec les codes civils, qui a proclamé le régime de la propriété exclusive de l'eau. Le régime de la propriété exclusive, quelle qu'elle soit. Je possède quelque chose, j'en fais ce que je veux. D'accord ? Eh bien, il faut, quelque part, refaire de l'eau un commun, hein, pour que l'eau soit protégée pour ce qu'elle est, et c'est-à-dire une réserve essentielle pour la vie. Pas que de l'homme. La ressource essentielle de la vie, on en parlait tout à l'heure, c'est la biodiversité, dont on est dans la chaîne. Et tout ce qui va effondrer la biodiversité effondrera les êtres humains. Mais après tout, peut-être la Terre n'a pas besoin d'êtres humains.
On ne va pas aller jusque-là, mais on vous remercie beaucoup pour cette intervention, pour cette explication. Dans cette émission que je pense qu'il serait pertinent d'appeler « L'eau pour la vie, pas pour le profit ». Et qu'on vous retrouvera ultérieurement avec ces sujets développés un peu plus lors d'autres émissions. Merci Bernard.